Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine, dans notre émission, nous avons décidé d'aborder un sujet qui fait l'objet d'ouvrages en ce moment, en particulier autour des questions liées à l'emploi et au logement. Et en particulier, ce qui a attiré notre attention, c'est un ouvrage qui vient de sortir, Manifeste pour une plateforme emploi-logement. Et j'ai le plaisir de recevoir une des co-auteurs de cet ouvrage. Je vais citer les trois auteurs, c'est Martine Abrousse, Jonathan Bonjean et El Yamin Soum. Et on a le plaisir de recevoir Martine Abrousse, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Donc vous êtes sociologue, chercheur associé au centre Pierre Maville, Université d'Evry, membre de l'ODAS, Observatoire National de l'Action Sociale. Et la première question que j'ai envie de vous poser, on reviendra évidemment sur le contenu de ce manifeste, c'est à partir de quel constat vous avez décidé d'interroger la relation entre le statut dans l'emploi et le logement ?
Eh bien, alors disons que c'est à la fois une longue histoire, ce constat, puisque depuis plus de 30 ans maintenant, les politiques publiques d'insertion depuis le RMI et puis le RSA et les politiques du logement par ailleurs, alors il y a des résultats, mais qui sont bien en dessous des objectifs de lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, le grand constat, c'est que il y a une population qui est finalement invisible, que j'appelle le DEL, le demandeur d'emploi logement, et qui n'est pas comptabilisé, alors que tous les observateurs, les professionnels, etc., Pôle emploi lui-même, à travers nos travaux que nous menons depuis longtemps, disent qu'effectivement le frein logement est un frein majeur et qu'on pourrait tout à fait faire émerger cette catégorie par la statistique. Voilà. Et donc le constat principal, c'est ça, c'est comment finalement trouver une nouvelle piste qui n'a pas encore été tentée et qu'on appelle la plateforme emploi-logement, qui elle relie, comme vous le soulignez exactement, les deux sujets, parce que aujourd'hui, pour trouver un emploi, il faut un logement, c'est attesté, et inversement. Voilà, pour résumer un petit peu.
Alors, votre proposition, elle s'adresse principalement à quel type de public ? Est-ce que ça inclut, est-ce que c'est uniquement les gens qui sont en recherche d'emploi, ou est-ce que ça inclut aussi des gens qui sont dans l'emploi, mais qui parfois se logent dans des conditions bien d'urgence, parce qu'ils ont besoin de cet emploi, ils ont du mal à trouver, à se loger à proximité. Il y a aussi la question évidemment des distances, il y a des gens aussi qui sont obligés de s'éloigner fortement des zones d'activité, notamment d'ailleurs en raison de l'offre de logement qui est insuffisante. Par rapport à quel type de quelles sont les publics que vous visez finalement ?
Tout à fait. Alors, c'est un public qui est quand même qui a une spécificité, c'est qu'il est à la fois en demande d'emploi et en demande de logement. C'est pour ça que nous l'appelons le DEL. Il est vraiment inscrit dans les multiples services de l'emploi, et il est également inscrit dans les multiples services, vraiment, on a toute la liste dans le livre, du logement. Et en effet, c'est une catégorie qui est révélée encore par la crise, l'a révélé, c'est-à-dire toutes ces personnes, comme vous le dites, qui sont victimes de la double peine, c'est-à-dire comment trouver un travail alors qu'on habite trop loin et qu'on n'a pas de logement à proximité. Et puis, aujourd'hui, des employeurs nous ont dit très clairement lors de nos travaux, en effet, dès que cette plateforme existera, nous, on viendra parce qu'on a des emplois à pourvoir, et de notre côté, les acteurs les acteurs sociaux, nous, on a des DEL, des demandeurs d'emploi logement. On ne s'adresse pas aux personnes qui ne souhaitent qu'un emploi et pas de logement, ou bien aux personnes qui ne souhaiteraient qu'un logement mais pas d'emploi. Ça existe aussi. On s'adresse vraiment à ceux qui sont en double demande et donc victimes d'une double peine. Et donc, nous ciblons évidemment, les décideurs que nous avons déjà prospectés. Hein. Mais aujourd'hui, la plateforme emploi-logement, elle n'est pas encore sortie, si vous voulez, de terre. Elle n'est pas implantée localement, alors que plusieurs observateurs, plusieurs élus sont très intéressés, puisqu'on a travaillé avec eux. Donc nous, on cible évidemment tous les décideurs des services publics. Ça peut être des élus, ce sont les élus, ce sont les directions départementales hein, aujourd'hui qui sont sommées à travers leur service public de l'emploi. Tout ça, c'est de la politique publique gouvernementale hein, depuis plusieurs années, de renforcer le lien emploi et de débloquer le frein logement. Mais ils n'ont pas encore mis en place un système, si vous voulez. Et ça peut être aussi les grandes associations, bien sûr, les acteurs du logement. Enfin, finalement, celui qui peut décider de mettre en place cette plateforme emploi-logement localement, eh bien, il est à multiples visages. Voilà.
Alors, peut-être avant de revenir sur les modalités de cette plateforme et ses possibilités d'être mises en œuvre sur des territoires pertinents, une question finalement sur les dispositifs existants, parce que ce qu'on pourrait vous répondre, c'est que il y a normalement un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre, que ce soit par exemple ce qu'on appelait le 1% patronal, donc cette possibilité pour des employeurs d'avoir accès à des logements sociaux prioritairement pour leurs salariés, ou effectivement des dispositifs de plateforme. On pense notamment à du logement locatif intermédiaire qui, là aussi, peut être priorisé principalement en direction de personnes qui cherchent un emploi ou qui sont dans l'emploi et qui cherchent un logement sur un secteur concerné.
Alors, ça c'est effectivement une question absolument centrale. Aujourd'hui, je peux affirmer vraiment que la catégorie d'aile telle que nous, on l'a fait émerger dans ce livre, elle n'est pas rendue visible. Voilà. Ce qui veut dire que il existe des actions diffuses, éparpillées sur le territoire, des initiatives, il y a une mobilisation des acteurs, ils ont conscience hein, que le cercle vicieux est important. La Fondation Abbé Pierre en 2014 alerte en disant le lien emploi-logement n'est pas assez pris en compte par les pouvoirs publics. Mais c'est un constat, il n'y a pas de solution concrète. Alors c'est pour ça que cette plateforme intéresse justement tous ceux qui sont dans cette volonté d'une approche un peu systémique finalement. Hein. Et concrètement, il n'existe pas, ça je peux l'affirmer, un lieu physique, on y tient beaucoup hein, alors des plateformes virtuelles, nous on prône le sens du contact, la relation directe, c'est ça, c'est un circuit court, c'est-à-dire que là le DEL, il va être pour la première fois en relation triangulaire, en lien avec l'employeur et le bailleur.
Alors, on entend bien votre volonté de créer finalement une sorte de guichet unique pour des personnes, on l'a bien dit, qui sont à la fois en recherche d'emploi et également qui ont un besoin en logement. Mais on pourrait vous répondre que pourquoi finalement ne pas critériser ou renforcer le critère de l'emploi pour l'accès à un logement social ou à un logement intermédiaire, ou inversement, effectivement, utiliser, on va dire, les services existants, par exemple du Pôle emploi, pour créer un volet logement au sein de Pôle emploi. Finalement, au fond, pourquoi faut-il créer une nouvelle plateforme pour faire converger des dispositifs qui fonctionnent séparément mais qui existent?
Alors, je vous réponds très précisément. D'une part, la demande des DEL hein, que nous avons largement interrogée, ce n'est pas forcément le logement social. C'est-à-dire, eux, ils disent, on nous propose toujours le logement social. Nous, on est d'accord, mais pas seulement. Or, le logement privé aujourd'hui, il est capté par beaucoup, hein, par Airbnb, etc. Et lorsque nous avons à Bergerac réunis, fédérés, grâce d'ailleurs à Monsieur le maire hein, actuellement, tous les acteurs locaux, les bailleurs privés ont dit effectivement, ça c'est intéressant parce que et c'est ce que disait Monsieur le maire, qui à l'époque était maire adjoint, c'est une alliance entre le monde du privé et le monde de l'entreprise. Et ça, concrètement, Pôle emploi ne le fait pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, un directeur d'agence de Pôle emploi nous disait, en effet, nous on a recensé énormément de chômeurs qui ont un frein de logement, on pourrait ouvrir les dossiers, mais en effet, nous n'avons pas un lieu localement implanté, moi je l'appelle la table ronde, hein, où le chômeur qui a un problème de logement pourrait rencontrer physiquement le bailleur privé ou le bailleur social, s'il y a des logements sociaux, mais qui sont actuellement réservés, si vous voulez, au public prioritaire, par exemple, du DALO, contingent préfectoral, mais pas forcément à celui qui est à la fois, encore une fois, et en demande d'emploi et de logement. C'est pour ça que c'est novateur, hein, de cibler particulièrement ce public.
Et selon vous, quelle est l'échelle pertinente ? Parce que on sait que, par exemple, sur des logiques d'emploi, on parle souvent de bassins d'emploi. Ça dépasse les frontières de la commune. C'est souvent des regroupements de communes à l'échelle d'intercommunalité. Quelle est la bonne échelle, selon vous, pour créer ces plateformes ?
Alors, ça a été exactement la question posée par un représentant du service de l'État à Tarbes, hein, on parle dans les Hautes-Pyrénées. Cette question est très importante. Et eux, ils avaient plutôt opté pour commencer, on commence petit, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'on tient beaucoup au local. Il faut rester modeste parce que l'idée, c'est une expérimentation sur une petite cohorte sur une année. Bon, alors le nombre peut... Il faut réfléchir, hein, selon les acteurs locaux. Mais le bon périmètre, c'est là où il y a à la fois de l'offre d'emploi à pourvoir, et il y en a effectivement presque partout, mais aussi de l'offre de logement avec, donc, ce que je vous disais, des bailleurs qui sont intéressés et qui sont à la recherche, entre guillemets, du locataire qui va être disponible rapidement et qui va être aussi motivé pour, comment dire, bien gérer son logement, etc. Il peut même y avoir une partie de rénovation. Là, il y a un énorme levier, hein, à travers ça. Vous savez qu'il y a de l'habitat ancien dans les centres-villes qui très dégradé, des logements vacants. Donc, monsieur le maire disait, ça correspondrait bien à notre ville parce que nous avons, tout le monde le sait, du logement ancien, vétuste, des propriétaires marchands de sommeil qui n'ont pas toujours les financements pour faire les travaux. Et là, il y aurait une opportunité pour remettre aux normes, hein, si vous voulez, tous ces logements, avec justement, entre autres, des chômeurs qui ont des qualifications dans le bâtiment, etc. Donc, pour vous répondre, pour conclure, c'est le plan local et ça peut être l'intercommunalité, mais on souhaite démarrer sur une petite échelle et après se développer.
Alors justement, est-ce que ce que vous proposez correspond pas à une typologie de territoire ? Vous avez parlé de Bergerac et de Tarbes, c'est-à-dire dans des villes, on va dire moyennes, hein, ou des petites villes, même des villes ou avec des petites agglomérations, où effectivement il y a des logements vacants ou disponibles, il y a des demandes d'emploi et où il faut mettre en relation, je dirais, l'offre et la demande. En revanche, est-ce que ça serait un peu moins adapté aux grandes agglomérations où là, ce qu'on appelle les zones tendues, où là, on sait parfaitement que l'offre de logement est de fait structurellement insuffisante et donc forcément, la mise en relation, elle ne suffira pas.
Alors, merci de poser toutes ces questions précises. Ça me permet de faire le lien. Les deux grandes villes nous ont contactés, se sont montrées intéressées. D'une part, Bordeaux, dont nous avons pu rencontrer les trois élus, mais c'était à une période un peu complexe en 2019. Et bien que très intéressée, la ville de Bordeaux avait à ce moment-là imaginé justement sur quel territoire cette plateforme emploi-logement pouvait se mettre en place. Et la ville de Marseille également nous avait contactés, enfin suite à une proposition de notre part bien sûr, et imaginé également sur quel territoire. Donc oui, ça peut être bien sûr sur des grandes métropoles, mais en sachant qu'on visera toujours un quartier où les DEL sont d'une certaine manière bien concentrés, vous voyez.
Oui, c'est-à-dire vous recherchez de toute façon à couvrir des territoires, on va dire, qui sont des territoires à taille humaine, si je puis dire. Voilà.
Absolument, c'est tout à fait le mot. Et l'idée aussi, et ça c'est ma posture de sociologue, ainsi que celle d'Eliamine Soum et Jonathan Bonjean, je crois qu'on a quelques points communs les trois auteurs, hein, bien qu'on soit dans des registres complémentaires et parfois différents, puisque Jonathan est plutôt historien. Mais justement, c'est ça l'idée, c'est le volet humain, c'est-à-dire encore une fois, on résume les choses en disant que l'idée, elle est ambitieuse dans la mesure où elle est novatrice et que nous en avons la conviction, l'expérimentation, nous sommes modestes. C'est-à-dire que moi, je suis absolument persuadée que ça marchera. C'est-à-dire que si on dit qu'on fait une expérimentation sur une vingtaine de DEL, je dis que peut-être qu'il y aura quelques échecs, c'est-à-dire deux ou trois personnes qui peut-être se désisteront. Mais enfin, je pense que là, il y aura un véritable encouragement. Et d'ailleurs, les DEL nous appellent en disant « Mais quand est-ce que la plateforme existe ?»
Voilà. Oui, parce qu'on rappelle effectivement qu'aujourd'hui, il y a des besoins importants dans l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture. Et qu'une des difficultés, parfois, pour faire venir les gens, c'est de les loger rapidement et dans de bonnes conditions.
Alors, votre phrase me fait rebondir encore.
Ce sera ma dernière intervention, parce qu'on arrive à la fin. Mais...
Elle me fait rebondir parce que l'éditeur Marie B, que nous sommes très contents de travailler avec cet éditeur, qui est vraiment au cœur de l'humain, et Cyril Vachon en particulier, lorsqu'il m'avait appelé, m'avait dit « Mais écoutez, là où je suis, localement, il y a effectivement des annonces dans l'hôtellerie, et seulement les employeurs disent « Ben oui, mais nous, on peut pas loger tous les demandeurs d'emploi qui seraient intéressés. » Et les demandeurs d'emploi disent « Ben moi, je peux pas prendre l'annonce, j'ai pas de logement, je peux pas dormir dehors. » Voilà, je termine là-dessus. Donc, votre phrase est tout à fait dans le sens de la réalité concrète.
Eh bien, merci beaucoup, Martina Brousse. Je rappelle que vous êtes donc avec vos deux co-auteurs, hein, Jonathan Bonjean et Eliamine Soum. Vous sortez un ouvrage manifeste pour une plateforme emploi-logement, repenser nos modes d'action, notamment au niveau local. Et que, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue, formatrice, chercheur associé au Centre Pierre Maville. Et que, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Et moi, je vous remercie au nom de toute l'équipe, les trois auteurs, pour ce coup de projecteur, vraiment, sur Radio Orient.
C'était un plaisir de vous accueillir dans l'émission. À très bientôt.
À très bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Et pour la deuxième partie de cette émission qui sera encore consacrée aux questions du logement, de l'habitat et de l'emploi, on va élargir un petit peu notre sujet avec mon second invité qui est Razi Hamadi. Bonjour.
Bonjour Alexis Bachelet.
Donc je rappelle, Razi Hamadi, que vous êtes directeur général de New Tank City, qui est un média global qui s'intéresse justement aux questions d'aménagement, de développement économique urbain, et également directeur du MBA Management des Transitions Urbaines à l'Université Léonard de Vinci. Et beaucoup d'autres choses, mais vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir pendant l'entretien. Moi, je voulais aujourd'hui vous remercier encore d'avoir accepté notre invitation et puis parler aussi de l'ouvrage que vous venez de sortir hein, aux éditions Archipel. Donc, 10 défis pour la France de 2030, 10 défis urbains, pardon, le mot est important, pour la France de 2030. Et ma première question, c'est de vous demander quels sont ces grands défis pour, effectivement, vous le rappelez dans un ouvrage, une population qui vit de plus en plus dans les villes, que ce soit en France et aussi à l'échelle mondiale.
Écoutez, au sens de l'INSEE, nous avons dans notre pays plus de 80% de la population française qui est urbaine, au sens où elle vit à quelques dizaines de minutes d'une zone urbaine dense et qui concentre l'ensemble des fonctionnalités, aménités qui font la définition de la ville au sens académique du terme. C'est 60 à 70% de la population mondiale avant la fin de ce siècle. Et s'attarder, ou en tout cas se concentrer sur les grands défis du monde, c'est normalement s'attarder et se concentrer sur les grands défis urbains. L'ensemble des défis de notre planète, qu'ils soient environnementaux, écologiques, liés évidemment aux enjeux d'emploi, de logement, de mobilité, d'énergie, sont des défis urbains et sont des défis pour lesquels je pense qu'une grande part de nos concitoyennes et concitoyens ne sont pas forcément armés en termes d'arguments, en termes de sensibilisation à ce que sont les tenants et les aboutissants de telles politiques, qu'elles soient émanantes du privé ou qu'elles soient des politiques publiques. C'est aussi là l'ambition de cet ouvrage, comment on aborde la question du logement, comment on aborde la question de l'aménagement du territoire, celle des mobilités, de l'énergie, de la vie productive, sous les contraintes ou opportunités, les menaces de notre époque. Les enjeux de réduction des émissions, les enjeux de réduction de mouvements pendulaires, les enjeux d'équilibre soutenable de développement, les enjeux qui sont liés finalement aux nouvelles problématiques qui s'imposent à toutes et à nous tous, avec une population française qui connaîtra une majorité de sa population de plus de 65 ans dans les années qui viennent, et donc une approche globale de nos villes de façon transversale qui est nécessaire, qui est urgente, et dont les citoyennes et les citoyens doivent se saisir dans le cadre du débat public. Enfin, et pour finir, cet ouvrage, j'en ai eu l'idée au moment des dernières élections municipales d'ailleurs, au moment où toutes et tous abordaient cette élection municipale, comme le disait Pierre Velt dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, comme tous villageois, c'est-à-dire que chacun considère que sa petite ville est un mini-État, avec évidemment les amis de proximité et d'usage, pas de circulation de voitures, d'énergie, des enjeux d'espace vert, etc., sans considérer les espaces comme des espaces interconnectés, en rappelant qu'une somme d'intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général et que les transitions urbaines sont un vecteur, un chaînon indispensable des transitions de manière plus large.
Alors, vous avez relevé aussi dans votre ouvrage que les questions liées en particulier au logement et à l'habitat, qui sont des questions fondamentales. On a tous besoin d'un toit à la fin de la journée, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, quelle que soit son activité, étaient quand même relativement absentes des élections présidentielles, un peu moins des élections municipales, même si, comme vous l'avez dit, chacun raisonne un peu sur son propre territoire. Mais en tout cas, au niveau national, on peut regretter que ces grands enjeux d'aménagement du territoire, et en particulier dans les territoires, les questions liées au logement et à l'emploi, n'aient pas été portées plus fortement.
Écoutez, sur ce point, c'est désastreux. C'est désastreux pour le débat public. C'est désastreux pour nos concitoyennes et concitoyens, puisque c'est de leur vie quotidienne dont il s'agit. Le logement, c'est l'endroit où on passe 60 à 70% de sa vie, si on compte le temps de sommeil. Le logement, c'est là où on dépense, selon les régions en France, entre 35 et 65% de son revenu disponible. Le logement et la construction au sens large, 20 à 30%, 37% du PIB, selon le périmètre que l'on prend en compte. Et pourtant, ce débat a été totalement absent de la campagne présidentielle, mais des campagnes locales et des campagnes municipales. Alors, j'ai essayé de m'attarder dans l'ouvrage, puisque cet ouvrage est un ouvrage avec certaines parties d'inspiration évidemment académique, mais pas seulement. Il est aussi un témoignage du quotidien, de ce que je suis amené à faire aux côtés de ceux avec lesquels je travaille. Dans le domaine de la vie productive, je rappelle ce qu'a été mon compagnonnage avec le PUCA et la Fabrique de l'Industrie. sur la question de l'aménagement logistique du travail que je réalise au quotidien avec cette belle et grande entreprise qui est APFC, mais sur la question du logement, c'est à la fois mon quotidien de citoyen, c'est ce que je fais avec New Stamp City, l'agence d'information spécialisée sur les questions urbaines, et c'est ce que j'ai pu faire en tant que parlementaire. Et ce qui se passe sur la question du logement est tout à fait choquant. Tout d'abord, au niveau local, on a eu un glissement très inquiétant. Il y a une dizaine d'années, lorsque je faisais des campagnes électorales, des tracts des candidats aux élections, qu'ils soient de gauche ou de droite, annonçaient le nombre de logements qui allaient être construits. Et finalement, nous avions un petit peu une course à l'échalote à mesure que la campagne avançait pour savoir qui allait construire le plus de logements. Lors des dernières élections municipales, la course à l'échalote existait là encore, mais en sens inverse. Et c'était finalement le candidat qui allait produire le moins de logements. C'est-à-dire que l'argument est devenu, on va produire le moins de logements possible, on va vous embêter le moins possible, nous allons nous efforcer de le faire. Et alors tout ça recouvre évidemment des discours empruntés. On ne va pas dire qu'on va produire moins de logements, on va dire qu'on va moins bétoniser. Or, ce n'est pas parce qu'on produit des logements qu'on bétonise. On va construire la ville sur la ville, réaménager, avoir une gestion stratégique, tactique de l'urbanisme, une approche de la sobriété foncière, n'exclut pas la production positive de logements. Il en est de même au niveau national. C'est-à-dire que le logement est devenu une matière tellement compliquée où finalement, on ne sait plus qui décide, est-ce que c'est l'élu local, est-ce que c'est l'élu national, que finalement, plus personne ne s'en occupe. Et donc, il n'était pas nécessaire d'en parler à l'élection présidentielle. Donc, nous sommes dans la cinquième puissance du monde, où le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations, où l'augmentation du prix des loyers, la rareté, puisque je rappelle qu'en France, dans ce pays, il manque des logements. On ne produit pas assez de logements, et où cette question a été totalement inexistante dans le débat public. Pour autant, les raisons, j'y reviens dans l'ouvrage, mais c'était aussi de porter des solutions, de porter des... C'est aussi la caractéristique de cet ouvrage, c'est que pour chaque partie, on ait des propositions concrètes. Sur le logement, vous avez cette sempiternelle guéguerre que se mêlent par médias interposés le pouvoir national et le pouvoir local. Je ne construis pas de logement parce que les élus locaux ne veulent pas délivrer les permis de construire. Et les élus locaux, qui vous expliquent qu'ils ne peuvent pas construire de logement parce que les bailleurs sociaux, les collectivités n'ont plus les moyens qui étaient octroyés par le passé parce qu'on prend sur leur budget et la politique d'austérité. Bref, sur ce, moi je prône l'existence d'un contrat triennal sur 3 ans où la collectivité fixe des objectifs de production qui sont inscrits dans des contrats qui sont prévus pour, comme le plan local pour l'habitat, lui-même pouvant être accueilli, en tout cas pour ce que sont ses nécessités dans les schémas régionaux d'aménagement, comme le SRADET, entre autres, hors Île-de-France, en Boudris, en Île-de-France. Et donc, en fonction de ça, ben, on dote la collectivité de moyens financiers si elle tient ou pas ses objectifs. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça, sachant qu'il faut être agile et tactique. Agile et tactique, pourquoi? Parce qu'en France, on produit assez de logements. Et on a une production de logements qui, finalement, par rapport à la moyenne européenne, n'a pas à rougir, y compris en termes de stock. Mais le problème, c'est que cette demande de logement, elle est inégalement répartie. Et l'offre tout autant. C'est-à-dire qu'on offre moins de logements et trop chers là où ils sont trop demandés, avec des moyens qui sont ceux de nos concitoyens et des concitoyens qui sont forcément limités. Donc l'État stratège, des collectivités agiles, des contrats et une transparence dans la manière dont les décisions se prennent sont une urgente nécessité qui doit amener aussi à revisiter un certain nombre de politiques publiques comme le zéro artificialisation nette, c'est ce que je prône dans mon ouvrage, et cet ouvrage a été terminé d'ailleurs et mis sous presse avant que le gouvernement rende certains arbitrages liés à l'adaptation du ZAN, mais on ne peut pas dire à des collectivités qui ont produit beaucoup de logements ces 10 dernières années, et d'autres qui n'ont pas fait grand-chose, que celles qui ont été les bons élèves de la production de logements et de la réponse aux besoins de nos concitoyennes et concitoyens vont être maintenant handicapées dans les 10 ans qui viennent parce qu'elles doivent respecter un zéro artificialisation net.
Alors, il y a
voilà
une autre...
voilà de manière pratique l'état d'esprit dans lequel on s'inscrit dans cet ouvrage.
Alors, il y a une question aussi à laquelle on aimerait avoir votre réponse. C'est comment est-ce qu'on gère cette question du logement en lien avec l'emploi, sachant que tendanciellement Il y a aussi beaucoup d'activités qui étaient situées dans les cœurs de ville ou dans les cœurs d'agglomération et qui progressivement ont disparu, ont été remplacées souvent par du logement, parce que comme vous l'avez décrit, il y a un besoin. Mais c'est bien de pouvoir se loger, mais c'est bien aussi de pouvoir travailler et de pouvoir travailler si possible à proximité de son habitation, parce que sinon, après, ça renvoie à tout un tas de problèmes de mobilité, le coût de la mobilité, l'obligation d'emprunter des voitures individuelles, etc. Comment est-ce qu'on réfléchit à votre échelle à ces questions de maintien de l'emploi, de l'activité dans les villes, et en particulier dans les villes où bien, il y a une sorte de compétition entre la production de logements et le maintien d'activités?
J'ai envie de vous dire, on arrête de réfléchir, on agit. Il y a aujourd'hui, moi, dans mon parcours personnel, deux éléments fondamentaux qui nourrissent la réflexion de l'ouvrage, indépendamment des études que j'ai pu effectuer au prix de l'Université Paris-Descartes, au sein de l'École des Ponts ou Télécom Paris, sur notamment les enjeux de logistique urbaine, de mobilité et de mouvement pendulaire emploi-travail. Mais je dis, on arrête de réfléchir, on agit. Pourquoi? Parce que dans cet ouvrage, qui se veut aussi un ouvrage de vulgarisation, pour que nos concitoyennes et concitoyens se saisissent de ces enjeux et soient en capacité aussi d'interpeller leurs élus locaux et nationaux sur ces problématiques importantes. Vous savez, on ne peut pas avoir des élus, très clairement, qui vont tenir des grands discours sur le produire local, sur la lutte contre Amazon et la logistique toujours plus importante et qui sont les mêmes qui vont déclasser, c'est-à-dire qui vont orienter vers une autre destination des terrains qui étaient destinés à la logistique et à l'activité pour faire du bureau ou du résidentiel. Ça n'est plus possible. Aujourd'hui, sur l'Île-de-France, on parle de 700 000 m² déclassés. C'est-à-dire que 700 000 m² en métropole du Grand Paris doivent aller à l'activité. C'est-à-dire des gens qui travaillent dans la métropole du Grand Paris, qui habitent dans la métropole du Grand Paris, qui prennent les transports en commun de la métropole du Grand Paris, pourront donc travailler dans la métropole du Grand Paris. Eh bien, ils ne pourront plus demain travailler dans la métropole du Grand Paris puisque nous avons déclassé 700 000 m². Parce qu'ils sont moins juteux financièrement, et je peux le comprendre, pour les collectivités locales en termes de vente au prix du mètre carré, que du résidentiel ou du logement. En même temps, au gouvernement aussi de tenir ses objectifs, et c'est pour ça que cet ouvrage qui se veut non partisan fait la part des choses. Le gouvernement, lorsqu'il supprime un certain nombre de fiscalités liées à l'activité des entreprises, il enlève aussi cette appétence pour les collectivités d'attirer l'entreprise sur leur territoire. Puisque avant, nous avions un certain nombre de fiscalités et de taxes qui, parce qu'on s'installait dans telle commune, eh bien, permettaient des ressources pour les communes, donc il n'y a plus d'intérêt. Bon, ces deux mouvements cumulés là, qui expliquent aussi les 400 000 m² de déclassés d'activité en métropole Rhône-Alpes, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que si on veut réduire le mouvement logement, domicile, travail, zone d'activité, pour que les zones d'activité, elles soient plus proches de la ville. Mais c'est aussi ça, une ville équilibrée. C'est une ville qui arrive à intégrer les différentes fonctions. Autre exemple, on parle beaucoup des zones à faible émission. Bon, vous aurez compris que si on met en place des zones à faible émission, mais qu'en même temps, on oblige les gens à habiter de plus en plus loin, à la fois parce qu'il n'y a pas de logement, c'était notre premier sujet, ou parce que leur activité est beaucoup plus lointaine, c'est la double peine pour celui qui déjà doit s'éloigner, payer une voiture électrique, et lorsqu'il arrive aux portes de la ville, doit espérer ou prier Dieu pour pouvoir se recharger. Et c'est la même chose, par exemple, pour la logistique. Vous savez, la logistique, c'est un petit peu comme, et en particulier la logistique urbaine, c'est comme ces élus ou certains hommes ou femmes politiques qui ne cessent de dire qu'il faut rajouter des places de prison et construire des prisons. Et qui sont d'ailleurs les premiers à venir sur les plateaux télé pour dire « oui, mais pas chez moi ». Ben, la logistique urbaine, c'est bien d'avoir le tricycle électrique à zéro émission en plein centre-ville, mais celui-ci, eh bien, il doit avoir des points relais pour avoir du véhicule utilitaire léger qui vienne amener du colis, qui lui-même part d'une centrale logistique beaucoup plus importante, avec des véhicules propres qui, demain, n'auront pas une illimité d'autonomie, que ce soit en hydrogène ou en électrique. Donc il faut prévoir, anticiper et être stratège sur la manière dont on organise la ville. Finalement, la ville en transition, c'est la ville d'aujourd'hui, mais préparer et faire la transition, c'est aussi imaginer la ville de demain et la préparer. en isolant, en rendant prioritaire, en sanctuarisant les fonctions de ce qu'est une ville durable. L'espace logistique, l'espace d'activité, l'espace productif. Je reviens longuement dans mon ouvrage sur l'évolution aussi du bureau. Mais on a des chantiers extraordinaires et moi, j'ai cessé de croire exclusivement dans la politique. Je crois que la politique, c'est formidable, c'est merveilleux, on a besoin d'élus. Il faut continuer à croire en la politique, mais je crois aussi en l'éveil de nos concitoyennes et de nos concitoyens, aux chefs d'entreprise et à tous ceux qui, au quotidien, bien, se bougent pour trouver des solutions. Et donc cet ouvrage, il est aussi une contribution pour que chacune et chacun ait en main les tenants, des aboutissants, qui permettent aussi d'avoir une réflexion un petit peu objectivée sur les enjeux qui sont face à nous, parce qu'on ne peut pas continuer avec des demi-mesures ou avec des hypocrisies, ou encore dans des situations où finalement on réalise des choses qui peuvent même être contre-productives par rapport aux objectifs poursuivis, comme c'est le cas certaines fois dans le domaine, par exemple, du zéro artificialisation net. Avec un exemple très précis, vous n'allez pas pouvoir construire de l'activité ou de la logistique en première ou deuxième ou troisième couronne à cause du ZAN, eh bien on va aller beaucoup plus loin, d'accord, dans des champs de betteraves déclassés pour la betterave à direction de l'agriculture et donc réorientés sur de la logistique, et on va avoir beaucoup plus d'émissions CO2 parce que le poids lourd, il va faire une distance beaucoup plus lourde. Alors que en périphérie de la collectivité métropolitaine, on aurait une efficacité, une massification des flux qui serait utile et gagnante pour tout le monde. Alors, évidemment, le prix du mètre carré logistique, ce n'est pas le prix du mètre carré bureau, mais en même temps, lorsqu'on recherche que l'appétence du gain sans regarder l'équilibre du territoire et le développement durable, eh bien, finalement, aujourd'hui, on se retrouve sans la logistique nécessaire à nos métropoles et en même temps, on a le marché du bureau qui se plante parce que l'appétence du gain faisait qu'on a fait n'importe quoi ces 10 dernières années, et aujourd'hui on se retrouve avec la première et la deuxième et la troisième couronne, par exemple parisienne, avec du bureau vide et des opérateurs qui sont incapables de les remettre sur le marché parce qu'ils ont acheté trop cher.
Merci beaucoup Razi Hamadi pour avoir répondu avec fougue et talent à nos questions sur ce sujet. On le sent qui vous passionne. Je rappelle
c'est
que
une
vous
passion.
Êtes oui, oui, absolument, mais on le sent. Je rappelle que vous êtes directeur général de Newtown City, également directeur du MBA Management des Transitions Urbaines à l'Université Léonard de Vinci. Et on vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation dans notre émission qui aura été passionnante, comme souvent avec des intervenants qui répondent magistralement à nos questions. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.